Je me suis dit que c'était bien que les choses changent un peu.
Anything is possible with hard work.
You become what you believe.
Quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, c'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Power Girl, j'ai le plaisir d'échanger avec Bouteina Araki, directrice générale de Clear Channel France, une femme engagée qui a su en quelques années profondément transformer l'entreprise pour la mettre en adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux que le monde connaît. Bonjour Bouteina.
Bonjour.
Avant de parler de votre parcours et de vos engagements, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, pour nos auditeurs, que fait Clear Channel ?
Alors, Clear Channel, c'est une entreprise de communication extérieure. Concrètement, on a un salon de mobilier dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les lieux de transport, en gros dans tous les lieux de vie à l'extérieur du foyer, et qui nous permettent de communiquer avec les citoyens consommateurs et porter des messages. On a l'habitude chez Clear Channel de se décrire comme une plateforme pour les marques, donc pour porter le message notamment publicitaire des marques, mais aussi une plateforme d'utilité collective, parce qu'on est un acteur qui fait partie de l'écosystème des villes, de l'écosystème des transports, et on est à la fois là pour faciliter une prise de parole, qui est une prise de parole publicitaire ou institutionnelle, ou de la société civile, même d'ailleurs parfois, et aussi on est un agent qui redistribue beaucoup dans l'écosystème, par le biais de redevances, également par l'investissement dans les infrastructures comme des abris voyageurs qu'on utilise tous les jours quand on va prendre son bus, par exemple. Voilà, on est cet acteur-là qui contribue au fonctionnement des villes et on en est très, très fiers.
Voilà. Alors, on rentrera, Bouteina, dans les détails, mais moi, j'avais envie de commencer par votre parcours, un peu comprendre comment vous aviez finalement construit ce parcours. Vous avez été membre de la direction financière de Canal+, de la direction financière de La Martinière, d'Exterion Média, puis Clear Channel, dont vous avez pris la direction générale en 2016. Alors, on sent dans ce parcours une appétence pour les médias et puis pour les chiffres. Mais dites-nous un peu ce qui vous a guidé, en fait, dans ce parcours.
Alors, ce serait très prétentieux de dire que j'ai été guidée, mais parce que la vie, je ne la vois pas comme quelque chose qui se construit de façon très rationnelle et très anticipée, puis ça ne correspond pas à mon caractère. Alors, effectivement, je suis une personne de chiffres. Moi, j'ai toujours été dans les mathématiques. Et donc, quand j'ai choisi de rentrer dans l'entreprise et de faire une école de commerce, je suis assez naturellement allée vers la finance. Et j'ai commencé ma carrière dans la finance et c'est un monde dans lequel je suis assez à l'aise. Et puis après, en fait, l'arrivée dans les médias, ça s'est fait un peu par hasard. Parce que parfois, les circonstances font que, ah, bon, on se retrouve là-dedans. Et puis, en fait, j'ai beaucoup aimé les médias. C'est vrai que avant Canal+, j'avais travaillé plutôt dans de l'industrie assez lourde. Et puis, je me suis retrouvée chez Canal+. Et là, vraiment, j'ai découvert un monde dans lequel il y a deux aspects importants. Il y a un champ des possibles énorme. C'est un monde très excitant parce que c'est que ce soit le cinéma, que ce soit l'édition, que ce soit la publicité. On est beaucoup dans l'interaction avec l'autre, on est dans l'intégration de l'humain, dans la représentation des sociétés. Il y a plein d'aspects très, très excitants. Et en même temps, c'est une industrie qui est souvent moins professionnalisée historiquement que d'autres. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment pour quelqu'un comme moi qui est plutôt un esprit assez structuré, qui arrive avec mon expérience financière, etc., je voyais plein de choses à faire pour aller créer de la valeur supplémentaire. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Après, ce n'est pas réellement un guide. Ce qui m'a mené un peu dans l'ensemble de ma carrière, jusqu'à devenir la présidente de Clear Channel, puisque depuis 2020, je suis non seulement directrice générale, mais aussi présidente de Clear Channel. En fait, j'ai toujours essayé de répondre à l'appel du moment. C'est-à-dire que j'ai toujours privilégié l'utilité, le résultat, ce qu'il y avait à faire, plutôt qu'à réfléchir à mon cheminement de carrière. Et c'est plus comme ça que les choses se sont faites. On a tous, je pense, d'ailleurs hommes ou femmes, mais on a tous un peu un syndrome de l'imposteur. On se demande toujours si on est vraiment capable d'aller adresser le défi d'après. Et moi, j'ai un peu contourné ce sujet-là parce que je me suis rarement posé cette question-là. Non pas que je n'ai pas ce syndrome de l'imposteur, je l'ai comme tout le monde, mais plutôt parce que j'ai toujours été guidée par la nécessité de faire quelque chose. Il y a un enjeu, il y a un risque pour l'entreprise, il y a un gros défi, il faut absolument qu'on arrive à faire ça. Et ben, en fait, il faut le faire, quoi. Et je me suis à chaque fois retroussé les manches et j'ai dit, si c'est ça qui est la priorité, eh ben, je vais le faire parce que c'est ça qu'on me demande, parce que c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va permettre à l'entreprise de passer un cap difficile ou d'aller faire le développement dont elle a besoin, etc. Et à chaque fois, ben, ça m'a mené finalement d'un endroit à l'autre jusqu'à l'endroit où je suis aujourd'hui.
Et alors, justement, ces moments où vous retroussez les manches, etc., successifs, c'est ça qui vous a construit en tant que leader. Enfin, comment on se construit en tant que leader, justement? Enfin, c'était une question éternelle, mais parce que au départ, vous imaginiez pas, vous le disiez, hein, pas de plan de carrière, etc. Comment, tout d'un coup, finalement, chemin faisant, on devient un leader?
Ouais, c'est une très bonne question. Je me suis souvent posé cette question. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup sur lui-même. Déjà, c'est un point important. En fait, au cours de mes expériences, il y a un élément qui est apparu pour moi de façon évidente, c'est que ce que j'aimais faire, c'est travailler avec des gens. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas simplement de travailler avec des gens, mais c'était d'emmener des gens quelque part. Et je me suis rendu compte que ce qui me motivait le plus, finalement, dans tout ce que je faisais comme action, c'était de pouvoir engager des gens avec moi autour de quelque chose que je croyais. En termes de projet, en termes de conviction, en termes de valeur. Et petit à petit, bien évidemment, j'ai eu le rôle de manager, etc. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise pour faire ça, voilà, que j'avais un certain talent, on va dire, pour convaincre des gens, pour que les gens aient envie de bosser avec moi. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. On dit que le leadership, bon, c'est la capacité à projeter une vision, à convaincre des gens d'aller vers quelque chose. C'est beaucoup autour de cette histoire de convaincre. Mais convaincre, c'est une histoire qui est très, très humaine, en fait. C'est une histoire d'engagement. Donc, pour moi, c'est une histoire de connexion avec les autres. Et cette connexion, je me suis rendu compte que plus j'arrivais à travailler sur moi et sur une connexion à moi-même, et plus j'étais capable de m'ouvrir aux autres et les emmener avec moi. Et donc, j'ai énormément travaillé, mais vraiment, depuis des années, je travaille sur mes peurs, mes limites, mes freins personnels. J'ai aussi beaucoup réfléchi à mes valeurs, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que je ne voulais pas faire? À quoi j'étais pas prête? Mais au sens positif. Pas parce que j'ai peur, mais parce que, ben non, il y a des choses, je veux pas les faire. Et tant pis si ça me fait passer à côté d'une opportunité ou autre, mais il y a des choses qui sont contraire à ce que je crois profondément. Et en fait, je me suis aperçue que plus j'arrivais à être alignée intérieurement, en accord avec moi-même, plus j'avais une capacité à me connecter avec les autres. D'abord parce que j'étais capable d'être honnête avec les autres, d'être authentique, d'être sincère. Et en fait, cette authenticité doublée de cet alignement, ça fait que tout d'un coup, en fait, on peut s'ouvrir très, très fortement aux autres et aller chercher finalement le purpose des autres, en fait. C'est-à-dire de la même façon que moi, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui m'anime moi profondément en tant qu'être humain, ben ça me permet aussi d'aller comprendre, même au niveau d'un collectif, c'est-à-dire pas juste un individu, mais finalement, c'est quoi le purpose des gens chez Claire Chanel? C'est quoi ce qui les anime, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de bosser là plutôt qu'ailleurs? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se plier en quatre pour aller gagner un appel d'offres ou pour aller délivrer une campagne particulièrement compliquée? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il se dépasse. Et je crois que pour comprendre ça, pour arriver à toucher ce truc-là, ce purpose qu'ils ont, il faut déjà être soi-même très, très, très aligné. Et donc, j'ai tout le temps travaillé là-dessus et je continue parce que honnêtement, pour moi, c'est un truc qui est jamais fini. On n'a jamais fini d'être un être humain, en fait, de devenir l'être qu'on est. Et donc, je continue à travailler et j'ai l'impression de continuer à progresser. Et puis, il y a des moments d'arriver à des moments de blocage et me dire, oh, j'ai l'impression de plus trouver la magie ou de plus trouver l'étincelle. Et puis à nouveau, on débloque quelque chose en soi et on peut aller encore plus loin. Et c'est bien évidemment des choses qui, dans des périodes particulièrement de crise, parce qu'on a des périodes de crise assez terribles ces derniers temps, sont absolument fondamentales. C'est ça qui aide, c'est ça qui aide à surmonter.
Alors justement, j'y viens, vous l'évoquiez, on a vécu ces deux dernières années une crise majeure qui continue d'une certaine manière. Comment avez-vous réagi, parce qu'on doit se transformer dans ces moments-là. Enfin, je veux dire, vous nous disiez travaille sur soi en permanence, mais là, il y a eu un tel choc que tout leader a dû se, entre guillemets, se réinventer. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Oui, c'est tout à fait juste. D'abord, moi, j'ai pris la présidence de Claire Chanel trois semaines avant le Covid. Donc, en fait, j'avais une espèce de double défi. C'est-à-dire que j'étais déjà dans une démarche où il fallait que je démontre à la fois à mes partenaires extérieurs, aux collaborateurs, à mes actionnaires, etc., que, bah, ils avaient fait, que j'étais légitime à avoir cette présidence-là et à diriger cette entreprise seule, puisque ce n'est pas la même chose d'être DG avec un président ou d'être PDG. Donc, j'avais déjà cet enjeu-là. Et tout d'un coup, la crise arrive et la crise, elle est complètement inédite, on l'a dit, configuration que personne connaissait. Et en fait, j'ai approché le sujet en me disant il faut absolument que je rassure le collectif d'abord sur le fait qu'il y a un capitaine à bord. Parce que face à la détresse, face à l'inconnu, le plus perturbant pour un collectif, c'est de se dire on est un collectif sans tête. D'accord ? Donc, il faut qu'il puisse rapidement se dire on a quelqu'un à la barre. Et pour pouvoir asseoir ça, d'une part, j'ai fait un choix assez radical. En tout cas, à ce moment-là, ça paraissait très radical parce que j'avais fait le choix quelques jours avant que Emmanuel Macron décide de faire un confinement généralisé, que nous, on allait se confiner, que nous, on allait arrêter l'activité. Et c'était un choix assez audacieux. Et je me suis dit, il faut prendre une décision forte qui montre qu'il y a quelqu'un à la tête et que cette personne est capable de décider. Et ensuite, je me suis dit, il faut que très rapidement, mon cercle proche me suive. Et en fait, c'est une espèce de test, en fait. Il faut que je vois si mes collaborateurs les plus proches ont confiance en moi, me croient et me suivent. Et en fait, le test, il s'est fait très vite, parce que je leur ai expliqué mon choix et ma décision d'arrêter la production, d'arrêter les campagnes, etc. Et ils m'ont suivi et ils se sont mis en mobilisation immédiate. Et tout le monde s'est mis en mouvement. Ça a énormément aidé parce que ça a montré à l'ensemble de l'organisation qu'il y avait un capitaine à tête et que on prenait les choses en main. Et puis, ça a donné des directions parce que si on imagine un bateau dans la tempête, il faut un capitaine à bord, il faut que les gens sentent qu'il y a un capitaine à la barre. Et aussi, ce qui aide chacun dans ces moments-là, c'est de savoir ce qu'il a à faire. Tout le monde veut être utile. Tout le monde se rend compte qu'on est en danger. Et en fait, la meilleure façon, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue, la meilleure façon de les garder mobilisés, c'est de leur donner des choses à faire et des choses précises, y compris des cadres de très haut niveau de l'entreprise, qui à un moment donné se passent dans un mode exécution et plus dans un mode de réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, ben toi, tu vas aller adresser tous les clients, appelle toutes les agences médias, voilà la position, voilà la posture de Claire Chanel, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi. Toi, tu vas commencer à contacter les bailleurs, blablabla. Et finalement, le fait de donner ça, hop, tout d'un coup, l'entreprise, elle s'apaise parce qu'elle est en mouvement. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et le fait d'être dans l'action, ça élimine une partie de la peur. Et en fait, finalement, dans toute la période de crise, puisque là, on parle du tout début, mais bien évidemment, la crise, elle est longue, et on le sait, et on n'est pas complètement sorti de la crise. Et en fait, au fil du temps, on est passé d'un mode où, au début, c'était beaucoup de décisions rapides, courtes, on montre qu'on tient, la barre et on avance. Et puis, très rapidement, il a fallu commencer à se dire, comme tu le disais tout à l'heure, il a fallu se poser la question de la transformation, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas juste dans un petit feu qui était parti et qu'il fallait vite, vite éteindre. On était dans une transformation du monde qui était complètement bouleversante, quoi. Et donc, il fallait que nous, on s'adapte. Et donc, il a fallu commencer à réfléchir, revenir finalement à ce rôle du leader qui a une vision, a un projet, a une méthode, a un chemin à proposer. Et donc, c'était de travailler sur ça. Donc, sur ces deux années, ça a été beaucoup de la décision rapide et un travail de fond pour initier une transformation. Et on a mené une transformation sur ces deux années qui a été assez énorme, assez profonde, en fait.
Les trois mots que vous mentionniez il y a quelques secondes, est-ce que c'est ça, finalement, les qualités que doit avoir un leader dans ce monde incertain que nous continuons dans lequel nous continuons à vivre?
Oui, il y a quelque chose qui est…
La vision.
Ouais, il y a de la vision, il y a effectivement être capable de prendre des décisions, très important. Et le truc le plus surprenant, c'est que dans le monde dans lequel on est, c'était déjà un peu vrai avant, mais avec le Covid, c'est devenu une certitude, c'est qu'il faut avoir une vision alors qu'il n'y a aucune certitude. Quand même un monde particulier. Et c'est vrai que L'image historique du dirigeant, du leader d'entreprise, c'est celui qui sait ou celle qui sait, d'accord ? Qui va vers quelque chose, qui a son plan en tête, qui a une vision stratégique, qui se projette à 5 ans, à 10 ans, etc. Et en fait, on a découvert depuis quelques temps qu'en fait, on savait surtout qu'on ne savait pas. Et donc, il y a une espèce d'exercice d'équilibriste où on est en permanence en train de se dire « faut quand même que je rassure et que je donne une direction ». Et surtout, il ne faut pas que j'ai de certitudes parce que le monde est en train de bouger et que si j'ai des certitudes, je vais me planter. Et il ne faut pas qu'on se plante. Il faut qu'on reste à l'affût de ce qui se passe. Il faut être encore plus connecté avec l'écosystème. Où on va ? Que nous dit la société d'aujourd'hui ? Que nous disent les tendances économiques ? Jusqu'où va aller le bouleversement lié au réchauffement climatique ? Jusqu'où va aller le bouleversement lié à des nouveaux modes sociétaux ? On a la guerre d'un côté et on a une ouverture d'esprit qu'on n'a jamais vue dans nos sociétés. On a des talibans qui veulent réenfermer les femmes et on a des sociétés qui sont en train de surpasser la notion de genre. Voilà. Où est-ce qu'on va, nous, dans tout ça ? Quand on est un média, c'est des questions de fond qu'il faut se poser. Où on va dans tout ça ? Et donc, c'est cette difficulté, ce challenge particulier qui est d'être à la fois celui qui monte la voix, qui prend des décisions et qui rassure, et en même temps toujours s'autoriser à être dans cette incertitude qui potentiellement est positive. Et du coup, ça change quelque chose, je pense, de façon assez importante dans le leadership. En tout cas, moi, je me l'applique, c'est que je ne prétends pas du tout savoir, en fait. Et je ne pense pas que ce soit notre rôle maintenant de savoir en tant que leader. Il y a plein de gens qui savent des choses différentes, il y a des points de vue dans l'organisation. En fait, notre rôle, c'est de se connecter, c'est d'être connecté, d'entendre et d'être capable de faire émerger ce qui nous paraît l'orientation la plus pertinente et d'emmener les gens avec nous, parce que le projet, il se fait ensemble. Et garder cette agilité, parce qu'on va dans un sens et 6 mois après, si ça se trouve, il faut réinfléchir. On n'est plus dans des lignes droites, ça n'existe plus pour moi.
Alors, pour rentrer maintenant dans l'entreprise, j'ai envie de dire, vous le disiez, ces 2 dernières années, vous avez profondément, à la faveur évidemment de cette crise, transformé l'entreprise. Il y a 2 objectifs, hein, l'environnement et la technologie. Parlez-nous déjà de votre stratégie climat, parce que vous l'évoquiez, hein, l'environnement, le climat, c'est un des sujets que vous attaquez au sein de Clear Channel depuis quelques années. Parlez-nous de ce que vous faites concrètement.
Alors déjà, pourquoi l'environnement, ça nous concerne ? La publicité extérieure, c'est un média qui relève du code de l'environnement depuis toujours. Donc, du coup, on a souvent été concerné par des tas de réformes, y compris le Grenelle 2, dont beaucoup de gens se souviennent dans les années 2010, quand il y a eu tous ces débats-là. Et donc, on a été concerné, on a été interrogé sur ces sujets-là depuis longtemps. Et du coup, ce sujet n'est pas extérieur à l'entreprise. Contrairement à d'autres industries, on pourrait dire « Ah, tout d'un coup, on découvre qu'il y a un problème avec l'environnement et il faut se poser des questions ». Encore une fois, nous, le média de la publicité extérieure, c'est un média qui fait partie d'un écosystème de la rue. On fait partie de la vie des gens, on fait partie de la ville. On le sait, les villes, la mobilité, c'est des sujets qui sont en pleine transformation depuis pas mal d'années, notamment du fait des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux. Et nous, on fait partie de ça. Et donc, très tôt, on s'est dit, mais si on fait partie de ça, quelle est notre part à nous à jouer ? Et comment on peut être un acteur positif, vertueux dans la transformation des villes, dans la transformation des mobilités et de manière générale dans la transformation de la société. Et ça fait 2 choses. D'un côté, très tôt, on a pris un certain nombre d'engagements, notamment en termes de réduction de notre impact carbone ou de gaz à effet de serre. Et donc, on a chez Clear Channel, au niveau européen, des engagements très forts d'être ce qu'on appelle net zéro carbone. Je sais que la notion peut être un peu challengée, mais d'être net zéro carbone à horizon 2030 sur le périmètre 1 et 2 et sur le périmètre 3 à horizon de 2045. Ça veut dire réduire notre impact carbone très significativement, descendre jusqu'à moins 90%. C'est des engagements très, très forts. Et nous, on avance sur cette trajectoire-là et on est même un petit peu en avance par rapport à la feuille de route qu'on s'était donnée, puisqu'on s'était dit qu'en 2023, on aurait déjà réduit de 20%, et en fait, en 2022, on y est, à moins 20%. Donc, on va continuer. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il est vraiment autour de notre média. Si on est un média dans la rue, on a un rôle à jouer. et on a un rôle dans la transformation de la société. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la publicité. Ce pouvoir, il est fort. Il est d'ailleurs parfois très critiqué, parce que, et d'ailleurs parfois à juste titre, mais un certain nombre de personnes de la société civile critiquent la publicité parce qu'elle encourage la consommation ou parce qu'elle envoie une image déformée de tel ou tel aspect de notre vie. Moi, je prends le problème dans l'autre sens et je me dis, si la publicité a un tel pouvoir, la publicité a une responsabilité et donc un rôle. Et en fait, quand on regarde, parce qu'il se trouve que Clear Channel a 100 ans et que cette année, on reparcourt 100 ans de création en publicité extérieure. Et en fait, quand on regarde ces créations-là, on s'aperçoit que la publicité est toujours une espèce de reflet, parfois déformant, parfois anticipé, parfois en retard, de la société. Mais c'est toujours une espèce de miroir un peu décalé. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la publicité qui nous montrent quelle est la société qu'on avait dans les années 60, mais qui nous montrent aussi comment la publicité, avec des exemples qui, à l'époque, avaient été beaucoup, beaucoup débattus, par exemple, de United Colors of Benetton, où tout d'un coup, la publicité a cassé quelque chose qui était inscrit dans les imaginaires. Tout d'un coup, on a vu des personnes de couleurs différentes être ensemble. Tout d'un coup, on a vu d'autres représentations de ce qu'on était. Et ça a permis d'ouvrir des études. Ça a déclenché des débats. Et moi, c'est ça que j'aime dans la publicité. C'est cette capacité à changer les imaginaires, à changer ce qui est désirable, en fait. Parce que la publicité contribue à rendre telle ou telle chose désirable. Les femmes plutôt rondes, les femmes plutôt minces, telle chose. Ça peut paraître caricatural, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet outil-là, merveilleux, qu'on a entre les mains? On en fait quelque chose. Certains disent, il faut le casser. Si on le casse, la publicité existera toujours sous une autre forme. Moi, je dis non, au contraire. Nous, on est un acteur de la rue, on est présent devant tout le monde, on est le média le plus inclusif, le plus démocratique. Eh bien, utilisons ce pouvoir de la communication dans la rue pour véhiculer des images différentes et un imaginaire différent. Et ça fait partie de la transformation et de l'engagement qu'on a sur cette trajectoire environnementale.
Tout à l'heure, vous parliez d'embarquer les gens au moment des crises, évidemment, mais plus largement. Quelle est votre manière, justement, d'embarquer vos équipes? Vous parlez beaucoup d'innovation sociale, il y a un souci d'équité chez Clear Channel, d'inclusion, vous l'avez mentionné il y a quelques instants. Comment on embarque les gens? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre, finalement, pour faire que vos collaborateurs et collaboratrices grandissent, finalement, avec l'entreprise?
Oui, c'est absolument clé. En fait, Je parlais tout à l'heure de cette histoire d'alignement et donc de la capacité à engager le collectif autour de moi. Et pour moi, un des premiers éléments, c'est une histoire de confiance. Et la confiance, c'est le premier élément pour que les gens adhèrent. Ça suffit pas, mais c'est le premier step. Et cette confiance, elle va beaucoup s'appuyer sur l'authenticité et la transparence. Et comme je le disais, j'ai pris la présidence et à peu près en même temps, il y a eu la crise Covid. En fait, dès le début de la crise, le pari que j'ai fait, c'est de dire, c'est de parler, c'est d'être sincère, d'être authentique, c'est-à-dire de, bien évidemment, de ne pas paniquer les gens en disant « je ne sais pas à quoi ressemble cette crise, je ne sais pas où on va dans le mur », bien évidemment, mais en même temps, de ne pas prétendre tout maîtriser et d'être honnête vis-à-vis d'eux au fur et à mesure qu'on découvrait l'ampleur de la crise, ce que ça voulait dire et quelles actions on allait mettre. Et donc, ce principe d'honnêteté et d'authenticité, de sincérité, c'était vraiment fondamental pour gagner ce bien absolument magique qui est la confiance. Parce qu'une fois qu'on a la confiance des gens, on peut commencer à construire. Ensuite, il y a les histoires de valeurs dont je parlais un peu tout à l'heure. Les valeurs, c'est fondamental dans la manière dont un collectif est soudé. Moi, j'ai des valeurs assez fortes et parmi mes valeurs, il y a des valeurs, effectivement, d'équité. Notion d'équité, c'est notion aussi de diversité et d'inclusion, qui sont très, très liées, bien évidemment. Et donc, cette valeur-là, il fallait la mettre en œuvre pour de vrai. C'est bien d'avoir des valeurs d'équité, d'être très accueillant pour le monde, etc. Mais concrètement, comment ça se traduit pour les gens? Et en particulier, si les gens me font confiance, comment je leur démontre qu'ils ont raison de me faire confiance sur ces sujets-là? Ce qui fait que même dans la période de la crise Covid, qui pour nous a été très dure financièrement, on n'a jamais renoncé à certains principes. Par exemple, principe d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Et donc, on a, même dans les moments où on avait très, très, très peu pour pouvoir augmenter les gens, on a toujours fait des analyses d'équité, regardé s'il y avait des décrochages de salaire par rapport à des critères qui pouvaient être le critère du genre, par rapport aux critères de l'âge, par rapport à des critères d'ancienneté, etc. Donc on a eu ce principe de toujours se dire non, il faut faire en sorte que les salaires soient, enfin, que l'équité des salaires soit respectée. De la même façon, sur les salaires les plus bas de l'entreprise, on a toujours compensé quand les gens étaient en chômage partiel pour les plus bas salaires, on a compensé pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus pour des bas revenus qui sont déjà très très exposés. Voilà. Donc c'est un certain nombre de petites actions comme ça, très concrètes mais très systématiques où on fait ce qu'on dit. Et puis ensuite, il y a comment on engage même l'ensemble du collectif, les managers et ensuite les équipes. Et donc, ça passe par la transparence, le dialogue. Dialoguer et dire les choses aux gens, c'est aussi les responsabiliser. Et plus vous responsabilisez les gens, plus vous faites appel à ce qu'il y a de plus noble chez eux, de plus adulte et de plus intelligent. Et finalement, les gens adorent vous, moi, on adore être considéré pour ce qu'on peut apporter. Et quelque part, dire à quelqu'un, la situation est compliquée, voilà ce qu'on imagine faire, on n'est pas encore sûr, etc., c'est lui faire le crédit qu'il est assez intelligent pour comprendre la situation et que même, il peut m'aider à trouver la solution. Et ça, ça aide énormément, parce que les gens se sentent partie prenante de la construction. Et ça aide l'ensemble du collectif à aller dans le même sens. Alors, on a fait beaucoup de choses. L'équité, c'est un point qui, pour nous, est très important. Un aspect qui, pour moi, a été une constante depuis 2 ans, c'est de me dire aussi, si je fais quelque chose au service de nos valeurs, je dois le faire à l'extérieur et à l'intérieur de la même façon. Donc, par exemple, quand on dit qu'on est très attentif à l'égalité de genre, on va utiliser notre média pour ça. Donc, on soutient des associations, on soutient des organisations comme Business au Féminin, on soutient le Women's Forum, on soutient aussi des causes comme la lutte contre les violences domestiques, on promeut des femmes qui sont des femmes entrepreneurs ou des femmes championnes du monde ou des femmes, des grandes scientifiques. Tout ça, ça fait partie de la manière dont notre média change la perception qu'on a de la femme. Très bien. Mais si on faisait ça à l'extérieur sans rien faire chez nous, on ne serait pas au rendez-vous. Et donc, de la même façon, en interne, on essaie d'identifier les talents féminins, les talents masculins aussi, on ne les exclut pas, mais on essaie aussi d'aller voir où sont ces potentiels féminins qui, souvent, se manifestent moins, qu'on identifie moins, etc. Et donc, nous, on fait une action volontariste et ces personnes-là, ben, on essaie de les accompagner. On les met dans des programmes qu'on appelle, nous, de Bright Sparks, ou donc de jeunes talents qu'on va nourrir davantage ou identifier, former, coacher, mentorer, etc. davantage. On est aussi, on a aussi par exemple fait des modifications dans notre COMEX. Moi, quand j'ai pris la présidence, j'étais la seule femme membre du COMEX. Aujourd'hui, on est 3 femmes. J'espère aller vers plus dans les années à venir. Ça se fait progressivement. Et c'est aussi faire le pari de confier des fonctions qui sont traditionnellement plutôt imaginées dans les mains d'hommes à des femmes. Par exemple, notre directeur, directrice des opérations, chez nous les opérations c'est toute la partie exploitation, donc c'est les afficheurs, c'est les plateformes de préparation d'affiches, etc. Donc c'est un métier très terrain et très physique, et traditionnellement cette fonction-là a toujours été occupée par un homme, voilà, directeur des opérations. Il y en a eu plusieurs, mais ça a toujours été des hommes. Et là on a fait le choix de faire venir une femme. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme soit pas compétente dans ce métier-là, parce qu'en fait, ça demande pas particulièrement d'attributs masculins, ça demande de savoir gérer des process industriels, un très grand groupe de collaborateurs, une rigueur, des méthodes. Ça suppose aussi de savoir mener des transformations en termes de fonctionnement avec l'arrivée du digital, etc. Femme est tout à fait autant capable qu'un homme de le faire. Et ça apporte aussi un éclairage différent et un regard différent. Ça contribue à cette idée que l'entreprise est en transformation et qu'on peut fonctionner autrement. Voilà, donc c'est quelques exemples de ce qu'on mène. Pour moi, la transformation, vous parliez tout à l'heure de la transformation autour de l'environnement et de la technologie, mais quand on mène une transformation de cette ampleur-là, comme on l'a fait, en fait, c'est l'opportunité aussi de mener une méta-transformation, si j'ose l'expression, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on transforme le hardware, en fait, on est en train de transformer la culture. En tout cas, on a l'opportunité de le faire. Parce que la manière même dont on mène la transformation est un signal qu'on envoie et qui permet de transformer les façons d'interagir, les façons de se parler, les façons de piloter. Et donc, au final, la culture et les valeurs de l'entreprise.
Vous transformez donc le média, hein, Clear Channel, vous l'avez évoqué donc d'un point de vue méta et puis hardware. Le Clear Channel dans les années qui viennent, c'est quoi ? Quel est votre en quelques mots ?
C'est une entreprise qui est de plus en plus ou encore plus ancrée dans son territoire. J'aime l'idée qu'on ait un mobilier aussi dans la rue et je le vois complètement intégré dans la cité en ayant complètement intégré les enjeux environnementaux d'un côté, intégré aussi les enjeux d'interactivité avec le citoyen, c'est-à-dire vraiment un média intégré. Je vois aussi un média qui va, à mon sens, aller de plus en plus vers des contenus beaucoup plus diversifiés qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a une opportunité d'utiliser ce support pour continuer à parler des marques, continuer à faire de la publicité, mais de plus en plus en faire aussi un outil d'information, un outil de sensibilisation, un outil d'interactivité, voire même d'entertainment dans la rue, parce que les gens vont continuer à passer de plus en plus de temps dehors. Et donc, il faut à la fois qu'on soit complètement vertueux d'un point de vue intégration dans l'écosystème de la ville et dans le paysage de la ville, mais aussi un provider de tout un tas de services, de données, de contenus, d'informations aux citoyens. C'est ça qu'on sera, je pense, dans 5 ans, dans 10 ans.
Dernière question à la leader, cette fois on revient à vous, Bouteïna. C'est quoi votre mantra ? Est-ce que vous avez un mantra ? Moi j'aime bien poser cette question aux femmes leaders.
Oui, alors c'est une question que j'aime bien. J'ai un vieux mantra qui n'est pas extraordinairement grandement philosophique, mais que j'aime beaucoup et je vais vous dire pourquoi. C'est un mantra que j'ai depuis mes 18 ans. J'ai découvert cette phrase-là d'Oscar Wilde. J'adore Oscar Wilde, c'est un esprit impertinent qui vraiment me parle beaucoup. Et il y a une phrase comme ça qui m'a marqué, qui était « L'expérience est la somme de nos erreurs ». Et il le dit avec ce côté un peu impertinent d'Oscar Wilde. Ça rappelle un peu ce qu'a dit Mandela bien après, qui était de dire « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et quelque part, pour moi, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime dans cette phrase-là, en tout cas, moi, ça m'ouvre des portes parce que ça m'autorise à me tromper. Et un leader, c'est aussi une histoire de courage. Et pour avoir du courage, il faut accepter qu'on va peut-être se planter. Si on n'est pas prêt à se planter, on ne peut pas avancer. Et donc souvent, je me dis, l'expérience est la somme de nos erreurs. Si je me trompe, ce n'est pas grave, mais j'aurais fait du moment que mon intention était bonne. Voilà. Et donc c'est mon mantra qui est un mantra très simple, mais je me le dis très souvent.
Eh bien, c'est une très belle conclusion à cet entretien. Merci, Bouteïna Araki, de nous avoir accordé votre temps.
Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.